VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 25 octobre 2017. John Lyndon en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Au sommaire ce soir, au Kenya, le chef de la commission électorale confirme la tenue demain de l'élection présidentielle. Raila Odinga a appelé les électeurs à rester chez eux. Mali, 2 soldats tués et 1 autre blessé lors d'une attaque qualifiée de terroriste par le gouvernement. Antonio Guterres poursuit sa visite en Centrafrique. Il s'est rendu aujourd'hui à Bangassou. Nikki Haley est à Juba. La représentante des États-Unis à l'ONU doit évoquer la situation humanitaire catastrophique au Soudan du Sud. Et puis, nous retrouverons Nicolas Pineau pour les sports et Jacques Aristide pour la Minuteco. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. Au Kenya, le leader de l'opposition Raila Odinga a appelé ce matin les électeurs à ne pas participer à l'élection présidentielle de demain, estimant qu'elle ne pouvait être ni crédible ni équitable. Le point avec Dili Diko.
Raila Odinga a invité les Kenyans à rester chez eux pour boycotter l'élection présidentielle. Il a déclaré à ses partisans « Que faisons-nous demain ? Ne participez en aucun cas à cette parodie d'élection. Tentez de convaincre vos amis, vos voisins et tous les autres de ne pas participer. » Raila Odinga a dénoncé à plusieurs reprises la dictature qui s'installe dans son pays. Il a appelé ses concitoyens à sauver la démocratie, à se battre pour établir un gouvernement respectueux de la Constitution. Son appel intervient quelques heures après que le chef de la commission électorale kenyane, Wafula Chebukati, a confirmé que le scrutin aura bien lieu comme prévu demain. Il a dit avoir reçu des garanties des autorités que la sécurité des électeurs sera assurée. Plus tôt dans la matinée, la Cour suprême a renoncé à statuer sur un recours en faveur d'un report de l'élection. Seuls 2 juges sur 7 étaient présents.
Au Libéria, le vice-président sortant Joseph Boakai, qui sera opposé à l'ex-star international de football George Weah au second tour de la présidentielle, a appelé la commission électorale à enquêter sur des irrégularités au premier tour et à republier les listes électorales. Monsieur Boakai n'a pas déposé de plainte formelle au niveau de la commission électorale, mais les candidats de 3 formations de l'opposition ont fait cas d'irrégularités et de fraude lors du premier tour, le 10 octobre. L'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, ne s'est pas présenté aujourd'hui au tribunal de la capitale. Un juge avait demandé la veille qu'il comparaisse comme témoin dans une grosse affaire de corruption visant son ancien porte-parole sur un scandale des détournements de fonds de 2 milliards de dollars qui aurait servi à financer la campagne malheureuse de Goodluck Jonathan en 2015. Au Mali, des hommes armés non identifiés ont attaqué la position la plus avancée de l'armée dans le cercle de Niafungé, région de Tombouctou. Le bilan provisoire fait état de 2 soldats maliens tués et 1 autre blessé. Les dégâts matériels, on l'a dit, sont importants, comme l'indique notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Les mouvements des hommes armés non identifiés se multiplient de jour en jour, avec des attaques meurtrières contre les positions de l'armée malienne. Après la région de Koulikoro, où le commandant de brigade de la gendarmerie de la commune de Guiré est introuvable, maintenant c'est le tour de Sumpi, village situé à 20 kilomètres de Yanfouké, qui fait l'objet d'une attaque. Et c'est la position la plus avancée de l'armée malienne qui a été attaquée tôt ce mercredi 25 octobre 2017, aux environs de 2h du matin, par des hommes armés non encore identifiés. Le bilan provisoire est de 2 soldats maliens tués, 1 blessé et plusieurs véhicules appartenant à la société Sojika Satom, chargée de la construction de la route Nyonongoma, ont été brûlés. Sans oublier 3 véhicules des FAMA endommagés pendant le combat. L'armée malienne basée à Tombouctou a envoyé une équipe afin de rétablir la stabilité dans la zone. En tout cas, les coups de feu de Sumpi n'ont pas eu d'impact sur le chef lié du cercle qui est Niafunke. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le chef d'état-major des armées américaines, le général Joe Dunford, a révélé que c'est le Niger qui abrite actuellement la plus importante force américaine en Afrique avec 800 soldats américains et une importante base de drones déployés. L'embuscade qui a coûté la vie à 4 soldats américains début octobre a révélé l'ampleur de cette présence militaire et provoqué une polémique ici aux États-Unis conduisant l'armée à dévoiler des chiffres et à justifier son engagement. La France a appelé mercredi l'opposition et le gouvernement togolais à un dialogue immédiat pour aboutir à des réformes politiques et a demandé à Lomé de respecter le droit de manifester alors que les violences politiques ont fait au moins 16 morts en à peine 2 mois. Le président ivoirien Alassane Ouattara a également réitéré le même appel. Le secrétaire général de l'ONU poursuit sa visite en Centrafrique. Antonio Guterres est arrivé aujourd'hui à Bangassou où il a réitéré son soutien au casque bleu et à la population. Il a par ailleurs appelé la communauté internationale à ne pas oublier la Centrafrique. Freeman Sipila.
Le déplacement de Bangassou a permis au secrétaire général de l'ONU de toucher du doigt la complexité de la situation sur le terrain. Une ville contrôlée par des anti-balakas ciblant régulièrement les casques bleus et les déplacés musulmans. Face à cette tragédie, Antonio Guterres appelle la communauté internationale à s'investir davantage pour la paix en Centrafrique.
On voit la tragédie des gens victimes de la violence. On voit le sacrifice héroïque des soldats de la paix qui ont été tués ici en protégeant les populations civiles. Et ça me fait faire un appel très fort à la communauté internationale. Il faut, et on l'a demandé au Conseil de sécurité, renforcer la force pour qu'elle puisse mieux protéger les Centrafricains. Et il faut appuyer le gouvernement du Centrafrique, l'Union africaine et tous les autres efforts de médiation pour une réconciliation nationale effective et pour relancer le développement.
Aujourd'hui, Bangassou est vidé d'une bonne partie de ses habitants, dont la plupart se trouvent en République démocratique du Congo. Le secrétaire général de l'ONU a demandé aux Centrafricains de se réconcilier et de ne pas transformer le paradis dans lequel ils se trouvent en enfer. M. Guterres a aussi salué le travail des casques bleus en déposant une gerbe de fleurs en mémoire de 8 soldats de la paix tombés à Bangassou. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
10 personnes sont mortes dans des affrontements qui ont opposé dans la nuit de lundi à mardi des orpailleurs dans le Tibesti, massif montagneux dans le nord du Tchad. Nous y reviendrons dans notre partie magazine. Le gouvernement camerounais accuse International Crisis Group de déstabilisation après un rapport de cette ONG dénonçant une répression meurtrière et un risque d'insurrection armée dans les régions anglophones. Dans un nouveau rapport ce mercredi, International Crisis Group indique que la lutte contre Boko Haram a aggravé le niveau de précarité dans l'extrême nord, la région la plus démunie du Cameroun. En RDC, les militants d'opposition arrêtés dimanche et lundi à marge de la visite de Félix Tshisekedi à Lubumbashi dans le sud-est du pays ont été libérés aujourd'hui. Dans un communiqué conjoint, plusieurs missions diplomatiques avaient appelé à la libération de nombreux membres de l'opposition arrêtés à Lubumbashi. Les personnes arrêtées étaient au nombre de 28 selon la police, une cinquantaine selon l'UDPS. Le chef de l'opposition ougandaise, Biza Besigye, ainsi que 5 de ses partisans ont été inculpés d'incitation à la violence et remis en liberté après 6 jours de détention. M. Besigye avait été arrêté la semaine dernière à la suite de la mort d'un partisan de l'opposition lors d'une manifestation interdite à Rukungiri, sa ville natale. Les manifestants protestaient contre un projet pour supprimer l'âge limite de 75 ans pour être candidat à la présidence. Yoweri Museveni, 73 ans, pourrait ainsi briguer un 6e mandat en 2021. La représentante américaine à l'ONU, Nikki Haley, est arrivée aujourd'hui à Djouba pour évoquer la situation humanitaire au Soudan du Sud, ravagée depuis 4 ans par une guerre civile. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Nikki Haley va s'entretenir avec le président Salva Kiir. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Marianne McCall, elle va évoquer les questions de paix. Djouba attend des solutions sur la situation humanitaire et la contribution en termes d'aide. Le mois dernier, Nikki Haley avait affirmé à l'ONU qu'une nouvelle initiative de paix des pays de la région était la solution de la dernière chance. L'autorité intergouvernementale pour le développement, ou IGAD, a annoncé avoir terminé les consultations avec les belligérants, le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar, exilé en Afrique du Sud. Les violences ont redoublé ces derniers mois dans le plus jeune pays du continent, qui accueille déjà quelques 14 000 soldats de maintien de la paix. Avant Djouba, Nikki Haley était en Éthiopie et se rendra ensuite en République démocratique du Congo.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Espagne, le président séparatiste catalan Carles Puigdemont a décliné l'offre de s'exprimer devant le Sénat espagnol à la veille du vote par cette assemblée d'une mise sous tutelle de la Catalogne. Selon un porte-parole de la présidence, il s'agit là d'une réponse à l'annonce par le gouvernement espagnol que sa décision de prendre le contrôle de la région est sans retour. En Allemagne, des agents de sécurité travaillant dans des foyers pour migrants à Berlin ont incité des réfugiés, notamment des mineurs, à se prostituer selon la télévision publique allemande, suscitant l'indignation du gouvernement. On doit prendre ces informations très au sérieux car abuser de la situation de détresse dans laquelle se trouvent de nombreux réfugiés est inacceptable, a affirmé aujourd'hui le porte-parole de la chancelière Angela Merkel. Les eurodéputés se sont joints ce mercredi aux appels à briser le silence sur le harcèlement sexuel. Certaines élues évoquant même dans l'hémicycle leur expérience personnelle dans le sillage de la vague des témoignages déclenchés par le scandale Weinstein. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Jacques Aristide.
La bourse d'Abidjan, sixième place financière sur les 24 en Afrique, demeure attractive d'après son directeur. Et Edo Kossi Aminouvé indique qu'une huitième société viendra s'ajouter dans les mois à venir aux 7 qui se font coter depuis 4 ans sur la bourse régionale des valeurs mobilières. Toutefois, la BRVM connaît depuis 2015 une baisse de la capitalisation liée au fait que des investisseurs qui ont participé à la reprise du marché depuis 2011 ont engrangé suffisamment de bénéfices et voudraient sortir pour pouvoir profiter des gains. Mais M. Aminouvé croit que de nouveaux actionnaires viendront racheter des titres sur le marché. Le Parlement nigérian a voté hier en faveur d'une enquête sur l'utilisation d'un emprunt d'1,2 milliard de dollars contracté par Etisalat Nigeria, l'ancienne filiale du groupe Emirati Etisalat. Quatrième plus grand opérateur télécom du Nigeria, la compagnie a été rebaptisée Neuf Mobile. L'enquête a été motivée par des accusations de détournement. D'après des sénateurs nigérians, les anciens dirigeants d'Etisalat Nigeria n'ont jusqu'ici pas pu prouver comment cet emprunt a été utilisé. Namdeb, une joint venture entre le gouvernement namibien et le conglomérat diamantaire De Beers, compte fermer 4 mines de diamants d'ici 2022 en Namibie, d'après un syndicat des mineurs. La raison serait l'épuisement des réserves. Toujours en partenariat avec le gouvernement namibien, De Beers a lancé en juin le plus grand navire d'exploration de diamants du monde au large de la Namibie.
Nicolas Pinault est dans ce studio et c'est pour nous parler de sport. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
On commence par la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Le Mali échoue aux portes de la finale.
Eh oui, les Aiglonais qui affrontaient l'Espagne en demi-finale de ce tournoi qui a lieu en Inde. Eh bien, défaite 3-1 contre les jeunes Espagnols. Dans l'autre demi-finale, le Brésil domine l'Angleterre sur le même score, 3-1.
Finale aller de la Ligue africaine des champions.
La manche aller qui opposera Al Ahly au WAC de Casablanca se jouera ce samedi à Borgel Arab en périphérie d'Alexandrie. Pour rappel, les Égyptiens avaient demandé un report de la rencontre prévue initialement vendredi pour la jouer dimanche. Cette rencontre sera arbitrée par l'Éthiopien Bamlak Tessema. Le match retour sera joué le 4 novembre au complexe sportif Mohamed V de Casablanca.
Dixième journée du championnat italien, l'Inter en tête.
L'Inter Milan a pris la tête de la Serie A à la faveur de son succès hier soir contre la Sampdoria, 3-2 lors du match avancé de cette dixième journée. Mais Naples peut repasser devant s'il s'impose ce soir contre le Genoa. La Juventus, qui complète le podium, sera opposée au Spal, avant-dernier de la Serie A. L'AS Rome accueille le 17e Crotone. Quant à la Lazio, 4e, elle se déplace à Bologne.
La Juventus mise hors de cause dans le transfert de Pogba.
Oui, la Juve a été complètement blanchie par la FIFA de toute malversation lors du transfert de Paul Pogba à Manchester United l'an dernier. Pour la FIFA, il s'agissait de déterminer si l'argent touché par l'agent du joueur, Mino Raiola, avait été versé dans les règles. Raiola a reçu 27 millions d'euros dans l'opération, selon des documents qui ont fuité dans la presse. mais il aurait également touché des commissions de Pogba et de Manchester, ce qui évaluerait sa commission à 49 millions d'euros, soit près de la moitié du transfert. On rappelle que Pogba est...
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui, présenté par John Lyndon, production Georges Léonard Sagnot. Place à présent au dossier du jour. Et on commence par la CEDEAO et la monnaie unique. La task force présidentielle de la CEDEAO, chargée de coordonner la marche vers une monnaie unique dans l'espace ouest-africain, s'est réuni hier mardi à Niamey pour faire le point sur le processus. Il en ressort que l'échéance de 2020 pour mettre en route cette monnaie unique ne sera pas respectée. On fait le point avec notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
Depuis 1987 que l'idée de cette monnaie unique a été lancée, deux feuilles de route ont été élaborées pour y parvenir. Une en 2006... Une autre en 2015, c'est cette dernière qui a fixé l'horizon 2020 pour la concrétisation du projet. Issoufou Mahamadou du Niger, co-président avec le Ghanéen de la task force présidentielle de la CEDEAO sur la monnaie unique.
Notre monnaie unique, tant annoncée, mais jamais au rendez-vous, ne doit pas être perçue au mieux comme un signe d'impréparation, au pire comme un manque de volonté politique. La monnaie unique de la CEDEAO ne doit pas être l'arlésienne, toujours annoncée, mais jamais présente, jamais arrivée. Nous devons tout mettre en œuvre pour le respect de la date de 2020.
Invité à cette quatrième réunion de la task force, les présidents du Nigeria et celui de la Côte d'Ivoire, eux, ont estimé que le projet n'est pas réalisable à l'échéance de 2020. Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire.
Nous devons être réalistes. C'est important de tout faire pour essayer d'avoir la monnaie unique en 2020. Et ceci demande la poursuite des mesures donc de restructuration, de développement, pour être sûr que nos économies sont capables de résister aux crises actuelles, qu'elles soient endogènes ou exogènes. À mon humble avis, ce ne sera pas facile d'avoir la monnaie unique en 2020.
Déjà, à l'ouverture de la réunion, le président de la commission de la CEDEAO, le Béninois Marcel de Souza, donnait aussi le ton.
Lorsqu'on regarde les éléments en présence, nous pouvons dire que la feuille de route n'a pas été mise en œuvre rigoureusement. D'importants progrès ont été accomplis pour la convergence, mais ces résultats sont faibles. Et donc, nous ne pouvons pas aller en 2020. À la monnaie unique.
La rencontre a décidé de mettre en place un comité de réflexion sur une probable nouvelle feuille de route ou encore sur la faisabilité du projet en 2020. Le dit comité présentera ses résultats en février 2018. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Aujourd'hui, dans À votre avis, à 18h, temps universel sur VOA Afrique. La CEDEAO l'a concédé hier. Il n'y aura pas de monnaie unique en Afrique de l'Ouest en 2020. Malgré quelques progrès, l'harmonisation des politiques monétaires et les réformes nécessaires n'ont pas été mises en place. Que pensez-vous de ce retard dans la mise en place d'une monnaie unique en Afrique de l'Ouest ? Appelez-nous au 001 202 205 26 33 pour en discuter en direct à 18h temps universel dans À votre avis sur VOA Afrique ou laissez-nous vos commentaires sur notre page Facebook. Nous vous rappellerons pendant l'émission.
Au Tchad, 10 personnes sont mortes dans des affrontements qui ont opposé dans la nuit de lundi à mardi des orpailleurs dans le Tibesti, massif montagneux dans le nord du pays. Pour faire le point sur la situation, Anastasie Tudiech a joint à N'Djamena Mahamad Nour Ibedou, secrétaire général de la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme.
Des affrontements ont eu lieu entre les autochtones et les Européens venus de l'intérieur du pays et peut-être de la Libye.
Ces situations d'affrontement ne sont pas nouvelles dans la région?
C'est fréquent, ce genre d'affrontements, d'accrochages. Tout récemment, en 2015, je crois, oui, c'est une zone, en fait, c'est une zone qui a toujours été considérée comme une zone militaire à l'époque. Même avec le gouvernement passé, c'est une zone militaire. Et vous savez qu'avec le départ de Gaddafi, avec le problème libyen, il y a eu la prolifération des armes dans le coin. Et le gouvernement central de N'Djamena a quelquefois du mal à y appeler, quelquefois.
Quelle a été la réaction des autorités après l'annonce des morts et qu'ont-elles fait concrètement?
Une mission de l'armée, une mission militaire, hein, était rendue là-bas pour séparer les belligérants et peut-être arranger la situation. Je viens de l'avoir, cette information. Le commandant de la zone militaire de l'extrême nord du pays a diligenté, je crois, une mission. Et la mission est en train de chercher à arranger la situation. Et entre-temps, vous avez, on déplore peut-être une dizaine de morts.
Pour qui travaillent les orpailleurs?
Les orpailleurs, en grande partie, travaillent pour eux-mêmes. Mais quelquefois, il y a l'émergence de quelques petits patrons qui louent le service de 3 ou 4 orpailleurs comme ça. Et puis après, bon, ils la payent quoi.
Pour quelles raisons les autochtones et les orpailleurs s'affrontent-ils?
Ils s'affrontent pour... parce que bon, les autochtones sont contre les orpailleurs qui sont venus procéder à une exploitation artisanale qui leur apparaît à fleur de terre dans leur zone. Et vous savez que les orpailleurs étant venus d'autres contrées du pays,
notamment du Soudan,
considèrent que l'or apparu au Tibesti appartient aux habitants du Tibesti.
Qu'est-ce qui pourrait améliorer la situation selon vous?
Bon, le contrôle total de tous les jugements par le gouvernement. C'est la seule option. Mais vous savez, le gouvernement même ne joue pas plonger parce que, quelquefois, ils envoient des militaires qui se mettent à chasser des employeurs qui exploitent de façon artisanale. Ils confisquent leur matériel et ils procèdent eux-mêmes aux recherches pour leur propre compte. Et ça crée des frustrations. Généralement, ça envenime la situation, vous savez.
Y a-t-il une conciliation prévue entre toutes les parties?
Tout à fait, tout à fait. Il y a une mission du commandant de la zone militaire là. La zone militaire en question a dépêché une mission pour aller régler la situation.
Mahamat Nour Ibedou, secrétaire général de la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme.
Et Kabadou avec vous dans Washington Forum ce jeudi, le point sur la situation en République centrafricaine. Depuis 2013, plusieurs groupes armés sèment la désolation dans le pays malgré la présence de plus de 10 000 casques bleus. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, effectue une visite en RCA. Faut-il envoyer plus de casques bleus? Comment sortir de cette crise? Comment rétablir la paix dans le pays? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
Au Cameroun, les médicaments pour le traitement des maladies non transmissibles coûtent désormais moins cher. Il s'agit des maladies cardiovasculaires, respiratoires ou encore le diabète et l'hypertension artérielle. Ce coût amoindri a été rendu possible grâce à une convention entre une firme pharmaceutique suisse et les hôpitaux d'une congrégation religieuse au Cameroun. Notre correspondant Emmanuel Juntap s'est rendu dans l'un des hôpitaux au quartier Etougébé à Yaoundé.
Les maladies chroniques non transmissibles font rage au Cameroun. Elles sont devenues un problème de santé publique. Les visites effectuées dans certains centres de santé et surtout la demande de certains médicaments l'illustrent à suffisance. Comme ici, à l'hôpital de la Convention Baptiste du Cameroun, de Tougébé à Yaoundé. Gédéon Kemfe, Winsen Yu, technicien en pharmacie.
Il y a une grande demande, même aux pharmacies. Chaque jour, si on voit 100 malades, ici, on constate qu'il y a plus de 10 cas de hypertension, 7 cas de diabète et d'autres secteurs fréquents.
Problème majeur, de très nombreux malades ignorent leur état de santé ou sont diagnostiqués trop tard. À cela s'ajoute la faiblesse de leur pouvoir d'achat pour accéder aux médicaments généralement très coûteux pour les soins de maladies non transmissibles. 3 volets du nœud gordien qui trouvent désormais des solutions dans le programme Novartis Access. Ndassi Cordolia, point focal du programme Novartis Access à l'hôpital de Tougébé à Yaoundé.
Each month we have a plan in our health area. People are aware, not only in the hospital but in the community. So we go out, we talk about know your number under the umbrella of non-communicable diseases in churches, meeting groups, and in any group that is more than 20 that people can get the information.
À l'issue de ces campagnes de sensibilisation, l'hôpital grouille désormais de monde. L'achat du médicament n'est plus un supplice pour certains malades. Mohamedou Mokhtar est un patient diabétique.
Mais pour le diabète qu'on m'a demandé de venir là chaque mois, c'est bien abordable. Je suis dans les 2500. Depuis que j'ai commencé ici, je ne suis pas encore allé ailleurs. Ce n'est qu'ici, mais depuis le 4 janvier que j'ai commencé.
Vous êtes satisfait actuellement?
Ah, ça va, Dieu merci.
C'est en réalité 15 médicaments de haute qualité, les plus prescrits par les médecins, pour les maladies non transmissibles, qui seront disponibles ici en faveur des couches vulnérables. Didion Kenfe Wensenyu, pharmacien.
Pour le moment, pour un diabète qui prend deux produits, soit Glibenclémet et Metformin, il dépense presque 5 000 par mois. Avec Novartis, on croit que ça sera 2500 ou bien moins par mois.
Donc, et pour celui qui a par exemple l'hypertension?
Pour l'hypertension, ça dépend du produit que celui-là prend. Mais on est en train de travailler avec Novartis pour que chaque produit coûte moins de 1 000 francs par mois, par malade.
Le programme Novartis Access couvre déjà 6 villes au Cameroun, dont 4 en zone anglophone du pays. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
La rébellion au sein des Républicains contre le président Donald Trump prend une nouvelle tournure. Le sénateur Jeff Flake de l'Arizona est le dernier parlementaire à s'élever contre l'administration Trump. Comme son collègue Bob Corker de Tennessee, M. Flake a indiqué qu'il ne se représenterait pas l'an prochain. Un reportage de Sleti Karok rendu par Abdourahman Dia.
Dans un discours prononcé hier, le sénateur Flake n'a pas mâché ses mots. Il a critiqué ce qu'il appelle la nouvelle norme dans la politique américaine et qu'il est temps de la dénoncer, selon lui.
La notion selon laquelle nous devons nous taire au moment où les valeurs qui font de nous des Américains sont ébranlées et que les alliances et les accords qui garantissent la stabilité dans le monde sont constamment menacés à travers des pensées déclinées en 140 caractères. La notion qu'on ne peut critiquer cette attitude est fausse.
Avant M. Flake, un autre républicain, Bob Corker, du Tennessee, avait déjà dit son espoir de voir le président Trump se comporter en vrai leader de la nation au lieu de la diviser. Répondant à une question d'un journaliste, il a estimé que le locataire de la Maison-Blanche n'est pas un modèle pour les enfants.
Le fait de dire constamment des contre-vérités, les insultes et, je pense, la destruction des fondements de notre nation sera le souvenir qu'on gardera de lui.
La Maison-Blanche n'a pas tardé à réagir. Sarah Huckabee Sanders, porte-parole de la présidence, minimise le poids de ces deux sénateurs dans leurs états respectifs.
Je pense que l'histoire retiendra de ce président comme étant celui qui a vaincu l'État islamique, celui qui a permis à l'économie de réaliser les plus importants progrès depuis des décennies. Le chômage est à son plus bas niveau depuis 16 ans. Il a créé 1,6 million d'emplois depuis qu'il a été élu. Ce sont ces choses-là qui comptent pour les populations, pas des propos sans importance des sénateurs Corker et Flake.
Les leaders républicains ont exprimé leur regret après l'annonce du départ de M. Flake, le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell.
De mon point de vue, le sénateur de l'Arizona a été un bon membre de l'équipe. Il a toujours essayé d'avoir un résultat positif, quel que soit le problème en face.
John McCain, un autre sénateur de l'Arizona qui n'est pas en bon terme avec Donald Trump, décrit son collègue comme étant un homme intègre.
J'ai vu Jeff Flake se battre pour ses convictions, sachant qu'il en paierait le prix sur le plan politique.
Plusieurs républicains de la Chambre des représentants ont aussi annoncé qu'ils n'allaient pas se représenter pour les élections de mi-mandat en 2018.
Voilà, reportage donc de Sleti Karok rendu par Abdourahman Dia. C'est la fin de cette édition du Monde aujourd'hui, mise à nom de par Georges Léonard Sagnot. Patrick Deya était à la console. Présentation John Lyndon, merci à toute la rédaction pour sa collaboration et à vous pour votre fidélité au programme de VOA Afrique. L'actualité en continu, c'est sur la page Facebook de VOAfrique et sur voafrique.com. Excellente soirée à toutes et à tous.